enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, une fois de plus, je suis content d'être devant vous pour partager la parole. Il y a une chose qui me touche à chaque fois. Ça, c'est, je ne sais pas si ceux qui ont l'occasion de prêcher de temps en temps ressentent la même chose, mais c'est, pour moi, c'est du systématique. À chaque fois, les chants qui ont été préparés correspondent exactement à ce qui va être partagé par la suite. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour vous le partager ce matin. Et je vais m'appliquer à le partager de façon la plus fidèle, la plus claire, la plus simple possible. Mais je suis à chaque fois ébahi de voir la manière dont Dieu inspire le cœur, donc là en l'occurrence Jean-Claude, de celui ou ceux qui préparent les chants. Vous savez, pendant la semaine, celui qui va conduire la louange se met à part un temps, ou alors reste très très alerte et sensible pour savoir quels sont les chants qui vont être chantés. C'est pas un choix qui va se faire comme ça au pif, au hasard, mais c'est un temps que l'on met. Et je suis à chaque fois émerveillé de voir la manière dont le Seigneur agit. À chaque fois, quand les chants s'enchaînent et que je les chante, que je lis, que je prends conscience des paroles que l'on est tous en train de chanter ensemble, je me dis, mais il y a vraiment l'action du Saint-Esprit. Et je le sens très très fort, encore de façon particulière ce matin. Ce matin, vers la fin du temps de louange, j'étais vers le fond, et j'avais des impulsions qui me venaient. J'avais envie presque de venir, et puis prendre le relais. J'avais à un moment donné envie que les instruments s'arrêtent et qu'on continue a cappella. Et à ce moment même, Jean-Claude dit, les instruments s'arrêtent, on va chanter ensemble, juste les voix. L'esprit est un. Et je m'émerveille à chaque fois que je vois et je constate qu'il est là et qu'il inspire. Ce sont des preuves, des manifestations de cette unicité et du fait que Jésus est vivant. Ce matin, je peux vous dire que si aujourd'hui je suis croyant, c'est uniquement parce que Jésus est vivant. Je vous avouerai qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai été croyant et j'aurais pu l'être sans que Jésus soit vivant. Ça a été une période où mon attitude était plus religieuse que authentique. Et ce matin, c'est vraiment ça que je voudrais partager avec vous. Je voudrais vous parler de l'authenticité que l'on peut avoir avec le Seigneur. Le fait d'être entier. Et ce temps de louange de ce matin m'a vraiment fait du bien. Parce qu'on était au pied de Dieu, en toute simplicité. Et je pensais, je ne sais pas si c'est le cas de plusieurs d'entre vous, ou de certains, il est possible de se sentir indigne d'être là, au pied de Dieu. Il y a peut-être des pensées qui nous poussent à imaginer que, oui, on est là, debout, on chante, mais vraiment, est-ce qu'on est vraiment entier devant le Seigneur? Est-ce qu'on est vraiment digne d'être en relation avec lui? Et je voudrais tout simplement attirer votre attention que le temps de louange est un temps simple. Il faut rester simple devant le Seigneur. On a peut-être tendance à rechercher quelque chose d'un point de vue émotionnel, mais on n'aura pas toujours de quoi ressentir. Il y a des périodes, des moments dans la vie où on ne ressent pas particulièrement la présence de Dieu. Et il y aura des moments où, quand on sera réuni comme ça, de façon corporative, lors d'une assemblée, lors d'une réunion, lors d'un culte, où on ne sentira pas spécialement la présence de Dieu. Quand on arrive, peut-être qu'on n'a pas forcément eu le temps de se mettre à part, de se concentrer, de fixer nos yeux sur Jésus, et on vient juste d'arriver en voiture, et on va savoir ce qui s'est passé juste avant. Surtout pour ceux qui ont une famille, souvent c'est la course, c'est pas toujours très très calme. Mais quand on arrive au pied de Dieu, quand on arrive dans l'église, rien ne nous empêche de nous focaliser sur Jésus. de façon simple. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je désire insister ce matin. Il est simple de se mettre aux pieds de Dieu. Il suffit de s'appuyer sur ce que l'on sait, toutes les certitudes que nous avons par rapport à ce que l'on connaît de Jésus, tout ce que l'on connaît de son action dans notre vie, tout ce qu'on a pu constater dans notre propre parcours, et en toute simplicité. Ne nous laissons pas détourner par l'ennemi. Ne nous laissons pas arnaquer, tromper par de faux raisonnements, par de fausses pensées. Des pensées selon lesquelles nous ne sommes pas dignes. Des pensées selon lesquelles on n'est pas vraiment en train de louer le Seigneur de façon parfaite. Non, notre but, c'est d'être un parfum agréable. Être un parfum agréable, c'est être honnête, c'est être authentique. Et on lui apporte ce qu'on a. Rien de plus, rien de moins. On lui apporte ce qu'on a. Et ce matin, on a vécu un moment comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup de ressources matérielles. On n'a pas besoin de grands cœurs. On n'a pas besoin d'énormément d'instruments. Même si toutes ces choses sont bonnes. Je pense que les personnes qui sont impliquées dans la louange, si elles cherchent véritablement à servir le Seigneur dans ce domaine avec diligence, En travaillant la technique musicale, en travaillant la coordination, en travaillant l'harmonie, ça apporte beaucoup. Mais il est avant tout un état d'esprit dans lequel nous devons nous placer et qui est celui d'un dialogue, d'une expression qui sort du cœur. Et là, ça peut se faire avec une petite guitare, ça peut peut-être même se faire a cappella, dirigé par quelqu'un qui chante à moitié faux. Mais ça peut se faire, et ça peut produire un parfum agréable au Seigneur. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Nous avons besoin de garder ça en tête. Et j'ai vraiment à cœur de parler de ça aujourd'hui. Cet été, on parle de la foi. On est tous en train de lire, et peut-être certains l'ont déjà terminé, le livre de Smith Wigglesworth, au sujet de la foi. Je voudrais parler de l'authenticité, du parfum de Christ. Le parfum. Dernièrement, j'ai dû faire une petite carte d'anniversaire pour quelqu'un de la famille. Et puis en voyant la carte, je me suis senti inspiré de parler des odeurs, du parfum. Et quand on y réfléchit, les odeurs, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Quand on entre dans une pièce qui n'a pas été aérée, je pense notamment à une fois où un frigo avait été laissé à l'abandon pendant plusieurs semaines et des aliments, des denrées alimentaires avaient malheureusement s'étaient dégradés à l'intérieur de ce frigo. Quand j'ai dû l'ouvrir, l'odeur était insupportable. Dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez qu'un simple spray déodorisant aurait suffi? Je pense qu'il y a des moments où pour que les odeurs s'en aille, on est obligé de passer par quelque chose de radical, et ça passe par le nettoyage, par quelque chose de radical. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu veut avoir dans notre vie. Si on se présente au Seigneur en désirant être un parfum et qu'on se contente d'un petit spray de surface, nous n'allons jamais émaner cette odeur au Seigneur. Jamais nous serons ce parfum agréable. C'est étonnant de voir le nombre de fois où dans la parole, le mot parfum est précédé du mot agréable, surtout dans l'Ancien Testament. Être un agréable parfum, être un parfum agréable au Seigneur. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut générer de nous-mêmes, parce que ce nettoyage, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas par nos efforts. Même si on n'est pas dispensé de coopérer, de chercher, de travailler à rester et à demeurer dans la sainteté, mais c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Et une fois purifié, je peux me présenter au Seigneur. Ça, c'est la condition. Il n'y en a aucune autre. Mais si je n'en suis pas conscient, si je ne fais pas cet effort d'être conscient de cette réalité, je peux passer à côté de l'objectif et me retrouver dans une réunion, comme je vous l'avouais, je l'ai fait très souvent, et tout en restant à côté de la louange. On peut, vous savez, quand on connaît bien le milieu que l'on fréquente, donc par exemple les églises évangéliques ou les églises protestantes ou autres, on finit par connaître la façon dont on se comporte, les attitudes, les expressions, les postures. Toutes ces choses-là sont des codes. Et il n'y a pas de mal à ça. Dans toute communauté, dans tout groupe, que ce soit des groupes professionnels, des clubs, des associations, des églises, il y a des codes, il y a une façon de se comporter. Les cultes que nous faisons ont à peu près la même structure, et ça va changer d'une église à l'autre, ça va peut-être changer d'une région à l'autre, mais on a nos propres codes. Il faut se méfier de ne pas entrer dans la routine et de finir par perdre ce qu'il y a au fond, parce que c'est sorte, ce qu'on pourrait appeler le folklore de chaque église ne sont que les manifestations de quelque chose qui se passe en réalité. On se réunit parce que nous avons tous un même cœur et nous avons les yeux fixés sur Jésus. Après, on le fait d'une certaine manière, ça va varier d'une église à l'autre, et à la limite, peu importe. Et on peut finir par se tromper soi-même, tout simplement parce qu'on a l'habitude de ces codes, on les maîtrise bien. Donc on peut très facilement entrer dans le moule et donner l'impression, et peut-être finir par se la donner à soi-même, qu'on a vécu un culte tout à fait honorable. Mais rappelons-nous, les odeurs, ça ne trompe pas. Le parfum qui va émaner de cette réunion est soit un parfum agréable, soit un parfum désagréable, une odeur désagréable. Et le Seigneur en parle. Dans le premier chapitre d'Ésaïe, le Seigneur dit qu'il en a assez de ses sacrifices. Donc ça prouve bien que à ce moment-là, le peuple faisait des sacrifices, donc était dans une activité religieuse, une mise en pratique de rites, qui avait sans doute de très bons fondements, mais le problème, c'est que le cœur n'y était pas. Et je pense que l'être humain n'est jamais à l'abri de cela. Satan l'a bien compris. Aujourd'hui, Satan ne peut pas détruire l'œuvre que Jésus a faite. L'œuvre, la victoire qui a été accomplie, qui a été remportée sur la croix, elle est définitive. C'est irrévocable. Satan ne peut plus rien faire pour empêcher ça. D'accord ? Il y a des choses qu'il ne peut pas faire appel, comme dans des procès. La victoire a eu lieu. Par contre, il peut encore aujourd'hui faire en sorte que l'on ne soit pas au bénéfice de cette victoire. Et cette bataille a lieu dans les pensées. C'est pour ça que ce matin, nous allons nous concentrer pendant un temps sur l'authenticité, le bon parfum que nous pouvons être pour le Seigneur. Nous allons prendre un petit temps pour continuer de remettre ce partage entre les mains de Dieu, prier pour que je puisse parler non pas uniquement en fonction de ce que j'ai reçu, et j'en ai reçu des choses, et j'aurais pas le temps de toutes vous les partager. Vous savez, quand on prépare un message, on prend du temps dans la semaine, on y pense pratiquement sans arrêt, et on consacre parfois des moments particuliers, des heures particulières, et beaucoup d'idées arrivent. C'est facile à la limite de pouvoir partager tout ce qui nous passe par la tête. Mais ce qui vraiment va vous édifier aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a envie de vous communiquer. Alors bien sûr, il l'a fait en partie quand il m'a parlé, quand il m'a inspiré durant cette semaine, mais ce matin, j'ai vraiment à cœur d'être honnête avec vous, d'être authentique et me limiter à vous donner juste ce que le Seigneur a de précis pour vous ce matin. Donc on va prier dans ce sens. Seigneur, je te bénis parce que nous pouvons sans arrêt, sans cesse, compter sur ta présence, sur ton soutien. Et Seigneur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes réunis ici, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un croyant, c'est parce que tu es vivant. Alors, je compte sur ton onction aujourd'hui. Ce n'est pas par la puissance de la rhétorique, de la préparation, de l'expression verbale, ce n'est pas par le charisme, ce n'est pas par tous ces outils et ces facultés humaines que les choses changent, c'est par ton onction, et c'est ce que je te demande ce matin. Je te demande ton onction, afin que le message qui sera transmis soit un message de vie, qui génère la vie, qui ait un impact concret dans notre vie. Par le nom de Jésus. Amen. La première chose à laquelle j'ai pensé par rapport à ce message, c'était l'épisode de Thomas. Alors on va prendre le texte où il est question de Thomas. Ça se passe dans Jean chapitre 20, verset 25. C'est intéressant de voir un petit peu la manière dont Thomas a réagi à ce moment-là. Un peu plus de 2000 ans après cet épisode, je ne sais pas vous, mais en tout cas pour ma part, à chaque fois que je lisais ce passage, je ne m'identifiais pas du tout à ce personnage. On a plutôt tendance à dire, ben dis donc, Thomas, franchement, il était vraiment, vraiment à côté de la plaque. C'est vrai. On y est au courant et on a accepté la réalité de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie. On est du côté des disciples, de ceux qui l'ont accepté et qui croyaient en ce qui se passait. Mais c'est facile pour nous aujourd'hui. Tout a été accompli, tout a été raconté, mais à ce moment-là, au moment où ça se passait, au moment où les événements se produisaient, ça n'a pas dû être facile. Et personnellement, plus j'avance dans la connaissance de qui je suis, et plus je m'identifie à Thomas, plus je me rends compte que Thomas était quelqu'un de bien lucide, très très lucide, désespérément fondé sur la logique, sur l'intellect. Vous savez, très souvent je me dis, oui, aujourd'hui nous avons des forteresses, on le dit, les fameuses forteresses qui s'érigent contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance spirituelle, qui nous empêchent d'accéder à la réalité spirituelle et donc de bénéficier de tout ce que le Seigneur veut nous donner au travers de cela. Cette forteresse, toute cette attitude logique, le rationnel. Mais, alors c'est vrai, notre éducation, elle est basée là-dessus. À l'école, on ne nous enseigne pas à suivre les voies de Jésus. L'évolution, la connaissance technique et scientifique est basée sur l'expérimentation. Donc ce sont des choses concrètes. Dans le monde scientifique, vous savez que lorsque ce soit en chimie, que ce soit en biologie, que ce soit en médecine, les chercheurs n'avancent pas leur découverte de façon légère. Il y a des protocoles qui vont être utilisés pour valider. Donc la moindre expérience, la moindre hypothèse avancée par un scientifique digne de ce nom, un véritable professionnel, va devoir être soumis à une énorme quantité de protocoles, donc de vérifications, pour savoir si oui ou non on valide l'hypothèse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il ne faut pas rejeter cela. Il ne faut pas s'en vouloir d'être comme ça. Quand je lisais Thomas, enfin, l'évangile, chapitre 20, l'évangile de Jean, je me disais, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit à Thomas, heureux ceux qui auront cru sans voir, sans faire appel à leur sens. Le nombre de fois où je me suis posé la question en me disant, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne passe pas par ça? Ce serait tellement facile, tellement radical. On arrêterait là de tergiverser avec cette foi qui nous permet de saisir quelque chose qu'on ne voit pas. On y croit. Il faut croire avant de recevoir et alors après on recevra. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre cette foi en avant? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une manifestation qui vienne nous chercher là où nous sommes, au niveau de nos sens, dans le domaine que l'on est capable de maîtriser, nos perceptions physiques, et puis même d'un point de vue intellectuel, notre capacité psychique? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans ce domaine que ça se passe? On va lire le passage et on va essayer de répondre à cette question. Donc c'est au chapitre 20, évangile de Jean, verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, donc c'est Thomas qui parle, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Là, Thomas recherche quelque chose de tangible. Il veut bien croire. Enfin, on peut imaginer qu'il est disposé à croire. Mais il a besoin de fonder sa conviction sur quelque chose de palpable, quelque chose qu'il peut maîtriser. Et c'est étonnant parce que plus tard, Jésus, quand il se manifeste et qu'il arrive face à Thomas, il lui dit, vas-y, vois, mets ta main. Donc là, on est dans les sens perceptifs, hein. Vision, toucher, et puis crois. Mais il rajoute, tu as cru parce que tu as vu, heureux sont ceux qui croient sans voir. Pourquoi ? Pourquoi heureux ceux qui auront cru sans voir ? Alors, on va trouver une réponse, un élément de réponse à tout ça. Allons voir un petit peu ce qui se passe du côté de Pierre. Un des passages de la parole qui me plaît beaucoup, c'est l'épisode de Pierre avec ses collègues de travail, les autres disciples, enfin une partie étaient des pêcheurs, qui se retrouvent dans la barque, seuls. Jésus les a poussés à partir, à le précéder. Ils se trouvent dans la barque, il y a une énorme tempête. Je me souviens, la première fois que j'ai eu l'occasion de prêcher, j'ai évoqué ce passage. Et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui j'y reviens et il y a encore des choses à dire là-dessus. On va le lire ce passage ? Allez, Matthieu 14, chapitre 14, verset 22. Il est incroyable ce passage. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé, vous savez, c'est dommage parce que ce sont des histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit, et on finit par perdre de vue le côté hallucinant de ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous allons le lire ensemble, et on va essayer d'y rester un petit moment. Voir tout ce qu'on a à apprendre là-dessus. Chapitre 14, Matthieu. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Visiblement, il devait peut-être montrer quelques résistances, mais c'était important pour Jésus, donc il les a vraiment obligés à partir et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Jésus avait besoin de ces temps de communion, d'intimité. Et comme le soir était venu, il était là, seul. On va continuer à le lire un petit peu plus tard. C'est étonnant hein, de voir ce besoin, enfin étonnant, pas si étonnant que ça d'ailleurs, de voir ce besoin que Jésus avait de se mettre à l'écart. Il avait un ministère on ne peut plus public, et régulièrement il fallait qu'il se ressource. Quand j'évoquais tout à l'heure l'authenticité, en parlant des temps de louange que l'on vit à l'église, vous savez que oui, c'est quelque chose qu'on fait de façon corporative. Mais c'est avant tout quelque chose que l'on fait de façon individuelle. Si individuellement je ne suis pas au clair avec Jésus, je ne contribue en rien à ce qui se passe dans l'assemblée. Hein. Si je ne suis pas authentique pour ma part, dans ma relation, dans l'intimité que j'ai avec le Père, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, moi, je ne contribue à pas grand-chose. Quelles que soient toutes les autres conditions, si elles sont bien réunies, hein, je veux dire, l'équipe de louange, la préparation, la fidélité du pasteur, et tout ce qu'on peut y rajouter. Si moi, je ne suis pas authentique au moment où je loue le Seigneur, si mon intimité n'est pas là avec Dieu, ça ne sert à rien. Jésus lui passait beaucoup de temps, avait besoin de ça, il se ressourçait, et il recevait de la part de son Père. Des temps où il était à l'écart. On continue, verset 24. La barque, donc là on est du côté des disciples, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc là les disciples ont un petit peu de mal à avancer. Dans une barque, le but c'est d'aller de l'autre côté, le vent est contraire, donc ce n'est pas facile. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La quatrième veille de la nuit, vous savez à quel moment ça correspond de la nuit ? J'ai regardé là. Oui, entre 3 et 6 heures. En fait, c'est découpé. Ah, voilà, il y a ceux qui ont toutes les infos sur leur Bible. Dommage, je voulais apporter un scoop, dommage. En fait, c'est découpé en 3. On part de 6 heures de l'après-midi, 18 heures, donc de 6 à 9. Première veille, de 9 à minuit, deuxième veille, de minuit à 3 heures, troisième veille, et là, de 3 heures à 6 heures du matin, quatrième veille. Donc vous imaginez un petit peu l'état des disciples. La veille, il s'était passé quelque chose d'assez incroyable. Il y avait eu la multiplication des pains, si je ne me trompe pas. Et là, Il est entre 3h et 6h du matin. Pour ceux qui ont l'habitude ou l'occasion de travailler la nuit, je pense à Pat, ceux qui travaillent dans le milieu médical et tous les autres, entre 3h et 6h du matin, ce n'est pas les moments le plus glorieux. C'est difficile. On est fatigué. J'imagine que non seulement il y avait cet état de fatigue, il n'avait pas pu se reposer, ou du moins pas bien, de la journée qui précédait, et en plus, ce n'était pas un lac. Il y avait vraiment la tempête, donc ils devaient être tous sur le qui-vive. Et visiblement, effrayés par ce qui se passait. La tempête était violente. On le voit par le fait que la barque était battue par les flots, le vent était contraire. Ils ne sont pas du tout dans une situation de repos. On peut imaginer un petit peu, il faut essayer de se mettre à leur place. Donc ils n'étaient pas au mieux de leur forme. Et là, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau. Donc peut-être que la visibilité n'était pas très bonne. J'essayais de me mettre un peu dans l'ambiance. Au départ, ils ne sont pas sûrs. Ils croient percevoir quelque chose qui dépasse quand même pas mal de l'eau. Et après, ils finissent par distinguer que c'est quelqu'un. Donc ce n'était pas des personnes... je pense... que les disciples étaient des personnes habituées à vivre à l'extérieur. Ceux qui étaient pêcheurs avaient l'habitude de la mer. C'était des professionnels de la mer. On peut imaginer que ce n'étaient pas des poules mouillées. Moi, je les imagine physiquement, la peau tannée par le soleil, par le sel, des habitués de la mer. Ils y ont vécu peut-être de génération en génération. Ils sont habitués à la mer. Et là, ils sont dans une situation difficile. Et malgré ces hommes, ces costauds, ils ont peur. Ils sont vraiment envahis par la peur. La parole nous dit, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ces hommes hurlent, ont peur, parce qu'ils voient Jésus. Ensuite, ils s'aperçoivent que c'est Jésus. Cette personne qui se tient debout sur les flots, c'est Jésus. Et là, il y a la fantastique expérience de Pierre. Pierre, je ne sais pas si c'est Pierre l'impulsif ou Pierre le vaillant. Toujours est-il que, à mon avis, il devait être du style à agir très très vite, peut-être même avant de réfléchir. On le voit avec l'oreille du soldat lorsque Jésus a été récupéré par les soldats. Pierre, tout d'un coup, a envie quelque part de vivre cette expérience hallucinante. Et ce qu'il fait, c'est là que c'est vraiment intéressant. Ce qu'il fait, c'est qu'il a la sagesse de vérifier ses fondements. Il demande, il pense avoir reconnu Jésus, mais peut-être qu'il y a des raisons pour lui de douter. Déjà, quelqu'un qui est debout sur l'eau, c'est pas normal. Et donc, il lui dit, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, au verset 28, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Donc Pierre demande à ce que Jésus lui donne une parole, de sorte qu'il puisse s'appuyer sur la parole de Jésus. Et là, Pierre, c'est ce qu'il fait. Il se rapproche de la paroi de la barque et il commence à l'enjamber. Là, c'est quand même un acte de foi incroyable, parce que personne ne l'avait fait auparavant. Donc il enjambe, j'essaie d'imaginer, j'essaie de me mettre à la place, essayez de faire pareil, essayez de vous mettre à la place de Pierre au moment où encore le cœur qui palpite parce qu'il a vu ce qu'il a cru être un fantôme auparavant, il sait que c'est Jésus, et il décide à ce moment-là de lui faire confiance et de faire un acte de folie. La mer est impressionnante, elle les impressionne, ils sont en danger de mort. Et il enjambe la paroi. Jusque-là, si on fait un arrêt sur image, on est encore dans la normalité. Parce que son poids, le poids de son corps repose sur la jambe, sur la barque. Ensuite, il arrive de l'autre côté, et il y a un moment où le poids du corps bascule sur l'autre jambe, celle qui est sur l'eau. Et là, la surface de l'eau le maintient. Là, il n'est plus dans la foi à partir de ce moment-là. Enfin, Il est dans la constatation aussi. Là, son corps perçoit les sensations hallucinantes, mais il les perçoit. Après, c'est peut-être assez facile de ramener l'autre jambe, vu que forcément, la jambe, le pied a l'air de tenir sur l'eau. Et il fait quelques pas. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre, il s'approche de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait comme sensation, Pierre, à ce moment-là? Il avait donc la foi. Il s'est appuyé sur la foi. C'est très, très hardi de sa part, très audacieux. Mais il a aussi les sensations physiques. La surface aqueuse, contre tout ce qu'il a pu apprendre depuis qu'il est né, est en train de le soutenir de façon ferme. Et il avance. Et il avance. Et il est en train, il a la possibilité de se nourrir, moi c'est comme ça que je le comprends, de se nourrir aussi sur le plan naturel. Il a de quoi fonder sa confiance sur ce qu'il ressent physiquement. Quelle est la valeur de ce que l'on perçoit physiquement? Quelle est la valeur des informations du monde naturel? Quel est l'impact que ça peut avoir sur nous? Quel est l'impact que ça a eu, sur Pierre? Pierre a commencé visiblement à s'appuyer sur ses sensations. Mais il n'avait pas que des sensations tactiles, enfin sensitives. Il y avait la sensation des autres sens, c'est-à-dire l'ouïe, il devait entendre la tempête qui faisait rage. Il avait les sensations visuelles, les informations visuelles, les vagues. Donc il prenait conscience du danger dans lequel il était. Et là, on voit peu à peu ce qui se passe. C'est étonnant de voir qu'il a commencé à s'enfoncer peu à peu. Il a senti que ça ne le portait plus tant que ça. Au fur et à mesure qu'il a détourné ses regards de Jésus et qu'il a commencé à s'appuyer sur ce qui est logique, sur ce qu'il peut maîtriser dans le naturel, il s'est extirpé du miraculeux, du surnaturel, de la réalité spirituelle, de la manifestation du spirituel. En ce moment-là, les lois naturelles cédaient par rapport à quelque chose qui s'est imposé plus fort que la loi naturelle, c'était une loi spirituelle. Et en l'occurrence, il fallait à ce moment-là que l'eau puisse porter Jésus, parce qu'il fallait qu'il aille de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait de ses sensations perceptives? Il s'est laissé peu à peu détourner. Jésus a répondu à Thomas, « Heureux ceux qui auront cru sans s'appuyer sur leurs sens, sans voir ni toucher. » Et c'est quelque chose de puissant, de vraiment puissant. Je pense qu'il y a là un bel élément de réponse. Le Seigneur désire que nous soyons heureux. Le Seigneur désire que nous soyons prospères. Réellement prospères. Et ses plans pour nous dépassent largement tout ce que l'on peut recevoir dans le monde naturel. Le monde naturel peut nous apporter beaucoup. Beaucoup. Peut contribuer beaucoup à notre prospérité, à notre bien-être durant notre vie sur terre. Mais les plans de Dieu sont largement au-delà. Quelque part, Jésus disait à Thomas, « Je suis content pour toi que tu puisses croire. Mais si tu savais ce que tu manques, si tu savais ce que j'ai en réserve pour toi, heureux sont ceux qui auront cru sans voir, sans toucher. » Parce que cette vision de la foi qui passe par une acceptation, on doit humblement accepter de renoncer à ce que l'on est capable de maîtriser intellectuellement, à ce que l'on est capable de ressentir, que ce soit dans le domaine psychique, l'intellect, les émotions, que dans le domaine physique. Si on est capable de renoncer à ça et de fonder nos connaissances, notre confiance sur quelque chose de plus élevé, et bien sûr, en l'occurrence, de très très impalpable pour nous, alors, heureux serons-nous. C'est Jésus qui le dit. Voilà le plan de Dieu pour nous, et c'est puissant. Je suis reconnaissant de cette expérience, je suis reconnaissant de cette hardiesse que Pierre a eue. Quelque part, c'était un peu humiliant pour lui, parce que Je ne sais pas quelle est la vision que les autres disciples devaient avoir de Pierre, mais au moment où il s'est levé pour enjamber, ils ont dû se dire waouh. C'était peut-être un mélange de presque de ouais, et de respect. Ils ont dû être épatés par ça. En même temps, un peu de pas de dédain, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore cet impulsif? Vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de fantastique. Il a vécu quelque chose de fantastique. Mais dans le domaine du naturel, même si nous l'avons, même si nous recevons ça comme preuve, ça ne nous conduira jamais aussi loin que là où Dieu veut nous conduire. Thomas a accepté, a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était ressuscité. Pierre a constaté qu'il pouvait marcher vers Jésus en s'appuyant sur sa parole. Mais ce ne sont pas leurs sens physiques qui constituent le fondement qui leur permet d'aller loin avec le Seigneur, d'aller jusque là où il veut nous conduire. Et aujourd'hui, je crois véritablement qu'il est essentiel pour nous, non pas de mettre l'intellect de côté, il faut s'en servir de l'intellect, il faut se servir de notre capacité de raisonnement, il faut se servir de nos émotions, rester sensible à cela, mais ne pas les mettre au premier niveau. Il faut accepter d'avoir l'humilité de le mettre de côté. Vous savez que le parler en langue est en grande partie une attitude d'humilité. Ce n'est pas gratifiant intellectuellement de parler en langue. C'est humiliant. Tous ceux qui ont vécu l'expérience pourront certainement, en tout cas en grande partie, témoigner de cette sensation de honte de prononcer ces sons qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucune signification. Ça remet en cause tellement de choses. Moi, je me rappelle, les premières fois où j'ai parlé en langue, j'avais une bataille dans ma tête. Même si j'étais tout seul, je ressentais cette honte. Je ne suis pas très très fier de vous le dire, mais oui, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et Satan agit énormément là-dedans. C'est le seul domaine où il peut agir. Il peut nous faire de tout pour qu'on puisse ne pas accéder à ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous d'immédiat. C'est même pas une fois qu'il sera revenu, hein, c'est là, durant notre vie sur terre. La seule manière pour lui qu'il a de nous faire rater l'objectif, c'est de nous conduire à ne pas y croire. Non, c'est pas possible. Et c'est puissant, c'est très très fort. Vous savez que les puissances de l'air, comme le cite la Bible, comme les appelle la Bible, les puissances de l'air sont au-dessus de la puissance que nous avons dans le naturel. Notre force de volonté, notre puissance de réflexion, tout ça, on est balayé hein, par tout ça. Mais nous avons Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis croyant. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je n'ai plus eu envie d'être soumis à une religion donnée. À ce moment-là, j'ai remis en cause, de façon assez radicale d'ailleurs, tout ce que j'avais pu apprendre et intégrer comme expérience dans mon enfance. Et aujourd'hui, si je suis croyant, c'est parce que Jésus est vivant. C'est pour ça que je suis croyant, c'est pour ça que j'y crois. Si Jésus n'était pas vivant, je pense que je me serais vite lassé des simagrées, des rites. Il y a tellement de belles choses à faire. Au lieu d'être ici ce matin, on pourrait faire une randonnée à Rambouillet. On pourrait profiter de la vie, faire d'autres choses. Pourquoi s'embêter? Pourquoi consacrer de l'énergie, investir notre temps, une partie de nos finances, notre énergie, nos dons, nos capacités? Pourquoi le faire? Et si on le fait sans avoir une relation authentique avec Jésus, on ne vit rien de plus que ce que peut vivre quelqu'un qui s'investit dans une association contrôlée par une autre philosophie. Une église avec un Dieu mort, il y en a beaucoup. Je pense qu'il existe même des églises chrétiennes avec un Dieu mort. Des personnes qui n'ont pas de contact avec le Seigneur. Et ça nous conduit au verset, à mon avis, un des plus effrayants de la Bible. Le verset qui raconte ce que Jésus répond à la personne qui s'adressait à lui en disant « Je ne vous connais pas ». Il est effrayant ce verset. un verset très effrayant. Qui c'est qui peut me rappeler où il se trouve? Je l'ai perdu. Oui. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom.
Matthieu?
Matthieu 25. Je l'ai lu encore ce matin et j'ai perdu la référence. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Des personnes qui ont visiblement non seulement cru, mais investi une bonne partie de leur vie à servir le Seigneur. Et à la fin, se manifeste le fait que aucun contact. En tout cas, pas d'intimité suffisante. 25, verset 12. D'accord. Si ma relation avec le Seigneur n'est pas authentique, ce n'est pas la peine. Ce n'est absolument pas la peine. Alors, je voudrais aujourd'hui vous montrer un petit peu ce que c'est que la foi. Et là, peut-être que les enfants peuvent regarder aussi. Parce que parfois, les enfants s'ennuient un peu au culte quand les adultes parlent entre eux. Je me rappelle, quand j'étais petit, c'était parfois une expérience proche de l'agonie. L'été. C'est vrai, parce qu'il n'y avait plus l'école de dimanche et mes parents continuaient d'aller fidèlement à l'église et nous avec. Et c'était horrible, horrible. On était dans une église, une belle petite assemblée. Je la verrais certainement avec des yeux différents aujourd'hui si j'y retournais, mais à l'époque, c'était horrible. Donc, pour les enfants et pour les adultes, une image. Aujourd'hui, j'ai ramené un objet que l'on peut utiliser pour comprendre ce que c'est la foi. Un objet qui vous permettra, qui permettra à chacun d'entre nous de... Oui, merci Jean-Claude. De savoir comment fonctionne la foi de façon très, très simple. Quand j'étais petit, j'avais plusieurs fois essayé de fabriquer cet objet. Et ça a toujours été catastrophique. Malheureusement, je n'avais pas la technique pour le fabriquer. Et un jour, mon père m'a aidé à en fabriquer un aussi. Ça n'a pas marché non plus. Et alors, un beau jour, quand j'étais plus grand, j'ai décidé de m'en acheter un. Est-ce que vous devinez un petit peu la forme, là? Ah, mais lui, il sait, il y en a un qui sait. Hein? Oh, bravo! Presque. C'est quelque chose qui vole. Un cerf-volant. Alors... Voilà, un cerf-volant, ça marche. Je vais vous montrer comment ça marche. Un cerf-volant, c'est quelque chose qui vole en principe, effectivement. On a besoin de vent, on a besoin de la réunion de plusieurs facteurs pour que ça marche. On va faire un tout petit essai. Ça ne va pas beaucoup marcher parce que il n'y a pas beaucoup de vent dans la salle. Mais vous allez voir, j'espère que cette image va rester gravée. Alors, effectivement, on avait essayé avec mon père, hein, je disais tout à l'heure, de fabriquer un cerf-volant. Alors, on le fabriquait, mais de A à Z. Hein, on prenait les petites branches, on essayait d'en faire un losange, enfin une croix au début, puis d'en faire un losange. On y fixait, je ne sais pas trop comment, une sorte de plastique. Et puis au milieu, il y avait une ficelle. Et puis, il était bien beau, ce cerf-volant, chargé d'espoir. Et puis on l'a plus, je l'ai plus vu par terre et traîner que voler. Parce que pour faire un cerf-volant, il faut un certain équilibre et ça ne s'improvise pas. Donc, c'est pour ça qu'un jour, je l'ai acheté. Donc, on va faire une petite pause. Tant pis pour ceux qui écoutent le message MP3, il n'y a pas de... Mais bon, quitte à ce qu'on coupe après, c'est pas grave. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et après, on va en parler ensemble. Ce que j'ai dû faire pour que le cerf-volant prenne son envol, ça vole très vite. Hein. Ça monte très vite. Alors, ventilateur, dit Romain, mais il en faut beaucoup plus que ça, malheureusement. Il faudrait carrément une vraie soufflerie. En fait, je vous prie de croire que jouer au cerf-volant, c'est une très 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 belle expérience. Peut-être parce que j'ai l'esprit ludique, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul dans cette pièce. Quand vous avez un cerf-volant comme ça, il est tout simple, et qu'il y a du vent, c'est vraiment une belle expérience. Une très 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 belle expérience. Le cerf-volant, vous le mettez sur le dos. on va considérer qu'il y a une partie qu'on appellera ventre et l'autre qu'on appellera dos. Donc ça, c'est la partie au niveau du ciel, qui donne au ciel, vers le ciel. C'est la partie donc dorsale et la partie ventrale, là, celle qui regarde du côté terre. D'accord ? Il faut le mettre dans une position particulière, voilà. Pas uniquement sur le dos comme ça, mais un tout petit peu incliné. C'est pour ça que je l'ai posé sur une chaise. Et ensuite, on donne une simple petite impulsion. Là, j'ai dû la donner assez fort parce qu'il n'y a pas de vent. Il a fallu que je le fasse décoller. Mais quand il y a du vent, une petite traction suffit. Là, j'ai pris une quantité de fil limitée parce que bon, il y a le plafond. Mais quand vous êtes à l'air libre sur un pré, dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de vent, vous détendez le fil sur 30 mètres, 40 mètres, même plus si vous voulez. Vous mettez les deux manettes à la même distance, même longueur de fil de chaque côté, vous exercez une traction, et là, le cerf-volant, d'une flèche, en quelques secondes, il se retrouve à 30 mètres, 40 mètres du sol. Facile. Juste une traction. Puis une fois qu'il est dans le ciel, on peut, grâce aux deux manettes, aux deux fils, décider si on en ramène une vers nous et qu'on écarte l'autre, de faire pencher le cerf-volant, de le faire tourner dans un sens. Et ensuite, on tire la manette de l'autre côté et le cerf-volant ira dans l'autre sens. Et on peut s'amuser à faire des vrilles et on peut s'amuser à le faire piquer du nez vers le sol. Et ensuite, dès qu'il arrive à 1 mètre du sol, on inverse la position des bras et le cerf-volant remonte. Il y a une puissance, il y a du plaisir, on sent la traction au bout des bras, on entend le bruit du vent dans les voiles, parfois le bruit est tellement fort qu'on entend une vibration, c'est agréable, moi ça m'amuse beaucoup. Et il y a de la puissance, il y a vraiment de la puissance, je peux vous assurer que si quelqu'un se trouve à l'endroit où le cerf-volant pique du nez, quand on s'amuse à faire ces espèces de descentes et remontées, le choc peut être violent. Toutes les nombre de fois où j'ai raté, où j'ai pas réussi à le faire remonter à temps, le cerf-volant était explosé par terre. Il fallait le reconstruire, le réparer. Il y a vraiment une puissance. Eh bien, dans cette belle expérience, on peut en retirer beaucoup par rapport à la foi. Il y a juste une toute petite chose qui ne correspond pas dans mon image, mais je ne le vous dirai pas. Je vous laisserai réfléchir. Et puis ceux qui trouvent, vous viendrez me voir. Pour l'instant, je vais m'arrêter jusque là où ça marche, jusque là où l'image fonctionne. Que faut-il pour que le cerf-volant vole ? Les enfants, est-ce qu'il y en a qui peut me répondre ? Question facile. Comment ? Faut courir ? Ah ! Intéressant ce que tu me dis, Solène. Effectivement, c'est ce qu'on est condamné à faire quand il n'y a pas quelque chose d'essentiel. Non, 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 moi je parle de quelque chose de très très important. Que faut-il que... Emma, qu'est-ce qu'il faut pour que le cerf-volant se mette à voler alors ? Il n'y a pas d'enfants qui peuvent m'aider ? Ah, oui, il faut du vent. J'ai déjà essayé, parfois j'avais très très envie de faire du cerf-volant, mais bon, on ne peut pas toujours décider quand on est adulte, hein, qu'on travaille, bon. Et là, j'avais le temps, je pouvais faire du cerf-volant. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de vent. Alors, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai essayé de me convaincre qu'il y avait suffisamment de vent. On va tenter le coup. Allez. En général, c'est à ce moment-là que les épouses vous regardent. Elles ne disent rien, juste un regard. Ça m'est arrivé, c'est véridique. Hein. Donc, je sors avec mon cerf-volant, très content. Je prends la voiture, je vais dans un endroit bien, bien précis, le plus venté possible. Et quand je sors de la voiture, je réalise qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Mais le moindre petit frisson là, de la chemise me conforte dans l'idée que c'est bon, il y a du vent, ça va marcher. Et j'installe le cerf-volant, je le mets dans l'axe, etc. J'effectue la traction et puis le cerf-volant, oui, se soulève un petit peu, fait un peu de surplace et non, il finit par retomber par terre. Au départ, ça plane un petit peu, au plaisir limité. Hein. Puis après, il tombe carrément. Enfin bref, le cerf-volant tombe, il ne vole pas, il tombe. Puis au bout de quelques minutes, on comprend que bon, c'est pas la peine, on remballe le matériel et ça sera pour une prochaine fois. Donc, faire du cerf-volant quand il n'y a pas de vent, je peux vous assurer que c'est l'objet d'une grande frustration. On est vraiment déçu, vraiment déçu. Aussi, il m'est arrivé hein, de vouloir vraiment, de dire, tant pis, il n'y a pas beaucoup de vent, je me mets dans l'axe, je prends les manettes, je tire, et puis je cours. pour faire en sorte que le cerf-volant reste en l'air. Et ça ne le fait pas. Donc nous sommes d'accord. Première condition importante pour que le cerf-volant reste en l'air, c'est qu'il y ait du vent. Autrement dit, je ne peux pas accomplir cette action n'importe où ou n'importe quand. Ça, c'est très important. Lorsque l'on met en action notre foi, il faut qu'il y ait quelque chose de sûr sur lequel s'appuyer, un fondement sûr, la parole de Dieu. S'il y a un appel dans ma vie, ce n'est pas parce qu'il y a cet appel qu'il est pour maintenant. Être synchronisé avec le Seigneur pour le temps, pour le lieu. On ne choisit pas notre lieu d'habitation comme ça au hasard. On ne choisit rien au hasard. Le lieu, le temps, la manière dont on gère tout ça, ça ne doit pas se faire par hasard. Les choses peuvent fonctionner de façon admirable. Je vous l'ai décrit un petit peu, ces sensations agréables du cerf-volant qui marche quand toutes les conditions sont réunies. La vie peut être vraiment une belle prospérité. Mais il faut respecter des règles. On ne peut pas se lancer comme ça. Ce cerf-volant est conçu pour fonctionner. Il a été construit en série. Avant de le mettre en vente, il a dû être testé, il a dû être étudié. Sans doute des ingénieurs ont dû calculer un petit peu les angles, l'endroit où les fils sont accrochés. Puis nous, simples consommateurs, on l'achète, on attache le fil là où il y a les petits œillets et on ne se pose pas 36 000 questions. Il y a quelques petits réglages, mais le produit a été conçu et travaillé avant. Mais quelle que soit la qualité du produit, il ne va pas voler s'il n'y a pas de vent. Le vent, c'est la puissance de Dieu dans l'image. Cette puissance de Dieu est incroyable parce que souvent on peut imaginer que c'est à nous d'accomplir le miracle. On est là, on s'efforce, mais c'est pas nous qui accomplissons le miracle. Et parfois, cette fausse conception peut nous pousser à ne pas prier parce qu'on ne se sent pas de le faire. Ça, c'est pas possible, c'est trop fort, je ne suis pas capable. Et jusque-là, c'est vrai. Mais c'est pas à nous de le faire. Moi, la seule chose que j'ai à faire quand il y a du vent, c'est exercer cette petite traction vers moi. 20 cm, un coup sec. Tchoum ! Parfois, c'est même pas un coup sec. Le fait simplement de mettre le cerf-volant en phase et dans le sens du vent, et pouf, il s'envole tout seul. Et après, je le pilote. Je pilote un cerf-volant, un objet dans le ciel qui peut prendre une très grande vitesse, qui peut devenir presque un danger, qui peut devenir une arme. Il y a beaucoup de puissance, mais je n'en fournis même pas le millième. Je ne fournis rien de cette puissance. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de la puissance. Moi, j'ai juste donné l'impact. J'ai juste permis que le cerf-volant s'envole. Il a fallu que je place le cerf-volant au bon endroit aussi. Il faut savoir d'où vient le vent. Si je mets le cerf-volant et que je me mets face au vent, ça ne va pas être possible. Il faut que je le mette avec le vent dans le dos. Et pour ceux qui en font, il y a plein de petits détails comme ça qui rappellent qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc, le vent de Dieu, la puissance de Dieu, ce n'est pas moi qui fais le miracle. Je ne suis pas celui qui fournit l'énergie. C'est le Seigneur qui agit. Et deuxième chose, imaginons que je sorte un jour où il y a du vent. Je mets le cerf-volant au bon endroit et tout est prêt pour qu'il parte. Et je garde les manettes en main. Le vent est fort. Mais je reste là sans rien faire. Le cerf-volant va rester à terre. Si je n'autorise pas le déclenchement, si je ne déclenche pas par le biais de cette petite traction vers moi du fil, le cerf-volant ne va pas décoller, il va rester par terre. Il y a le vent, toutes les conditions sont réunies, la puissance elle est là, elle se manifeste, elle est gratuite, elle me dépasse complètement, elle est là, mais le cerf-volant reste par terre. Et je passe à côté d'un bon moment de plaisir. Je pense que le Seigneur a décidé, plus que je pense, nous savons que le Seigneur a décidé de se rendre quelque part dépendant de nous. L'œuvre qu'il a accomplie, elle a été accomplie une fois pour toutes. On n'y revient pas. La victoire, elle est là. Elle est assurée. Mais si nous ne mettons pas en œuvre notre foi, on a peu de chances de voir se manifester quoi que ce soit dans notre vie. Je voudrais simplement arrêter là. Je pense qu'il n'est peut-être pas forcément nécessaire de rajouter grand-chose. Il y a d'autres versets qu'on aurait pu lire, mais je préférerais à la limite que nous passions un temps. Les choses que je vous ai partagées ce matin ne sont pas très très nouvelles, ce sont des choses que nous connaissons, mais j'aimerais que l'on passe un temps où on mette en pratique tout simplement cela. Si on pouvait par exemple rechanter l'un des deux derniers chants, je pensais à l'avant-dernier, ou même le dernier. On peut enchaîner sur les deux si tu veux. Moi je sais que j'étais vraiment touché par ces chants tout à l'heure. Enfin, le moment, c'est pas les chants en eux-mêmes, enfin, qui sont de bonne qualité, mais ce qu'on a vécu pendant qu'on les chantait. J'aimerais bien qu'on puisse passer un petit temps en toute simplicité, en gardant en tête le fait que louer le Seigneur d'un cœur authentique, c'est simple. On n'a pas besoin de chercher à impressionner qui que ce soit. Le Seigneur n'a pas besoin d'être impressionné. Si la chose qui l'impressionne, c'est notre foi. Jésus était impressionné par la foi des uns et des autres. Waouh ! Jamais je n'ai vu dans toute la contrée un homme d'une telle foi. Là, oui, ça l'impressionnait. Mais sinon, nous, on n'a rien d'autre à faire. Et j'aimerais bien qu'avec ce cœur simple, en toute simplicité, nous puissions nous mettre aux pieds de Dieu et lui dire qu'on l'aime. Le remercier pour cette puissance qu'il met à notre disposition. Le remercier pour tout ce qui est rendu possible au travers de la foi. Et juste terminer le culte comme ça, par ces quelques chants, en cherchant véritablement à être le plus authentique possible.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.